Les voies de service, mercredi 11 juillet 2018. Je m'appelle Isabelle Falardeau et je suis en compagnie aujourd'hui de Daniel Lachance.
Bonjour.
Et de Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Et on va faire le tour de plusieurs sujets, comme d'habitude, en musique, en histoire et au sujet des Premières Nations. Moi, personnellement, je vais vous amener dans le nord du Canada, au Yukon, et dans le sud du Québec. Ça me fait toujours rire, parce que, non, mais c'est parce que quand on regarde sur la carte, l'Abitibi, moi, j'ai grandi en Abitibi, puis j'ai toujours dit que j'habitais dans le nord du Québec, mais quand on regarde, parce qu'il y a beaucoup de territoires en haut de ça.
Ouais.
Alors, je vous amène quand même un petit peu en haut de l'Abitibi, à Mistassini, à ne pas confondre avec Dolbeau-Mistassini, donc je ferai la distinction.
OK.
Et de votre côté, Daniel?
On ne confondra jamais. Première partie, je vais vous parler de Neil Young, qui était au Festival d'été de Québec la semaine dernière.
Ah oui, c'est vrai.
Et deuxième partie, je vais vous parler un peu de Paul McCartney et aussi un court article que j'ai vu qui m'a un peu ébranlé. On parle de paralysie musicale.
J'avoue, c'est un peu effrayant, surtout quand on est musicien comme vous.
Je vais vous raconter ça tantôt.
On a hâte d'en entendre plus. Et de votre côté, Serge?
Oui, eh bien, il y a le fameux spectacle Slave dont on a beaucoup parlé, qui a été retiré de la programmation du Festival pour rire. Et ça m'a donné l'idée de vous parler de l'esclavage, de l'histoire de l'esclavage, depuis quand ça existe.
Je sens qu'on va avoir des surprises.
Oui. Et vous savez que ça existe encore, l'esclavage, aujourd'hui.
Ah oui, c'est il y a ça, des, c'est ouais. terrible.
Et ensuite, il y a des... Bien, évidemment, avec ce qui est arrivé en Thaïlande, les jeunes qui sont restés enfermés dans une grotte durant 2 semaines, presque, dans la presse plus de lundi, on parlait de 6 événements de sauvetage extraordinaire. Alors, je vais vous parler de ça.
Ce sera très intéressant. Merci beaucoup. Et on commence tout de suite en musique. Vous nous parlez de relève musicale, c'est ça, avec Neil Young ou avec les, avec les Beatles?
Oui, la relève aux cheveux gris. Non, c'est parce que ça m'a frappé. C'est un article sur la prestation de Neil Young au Festival d'été de Québec, mais paru dans Le Figaro.
Ah! Oh, on parle France. De nous de l'autre côté de l'Atlantique.
Je me suis dit, c'est cool, je vais lire celui-là parce que ça allait être le Festival d'été de Québec.
Ça rayonne
traversé
loin.
Nos frontières.
Oui, ils sont sur la map, comme on dit.
Oui, absolument. Donc, le titre, c'est « Neil Young continue de dompter l'électricité ». Je ne sais pas de quelle façon il fait ça, mais...
Ben, oui. J'ai hâte d'en entendre.
Et c'est paru dans Le Figaro, l'édition du 7 juillet 2018. Et ça commence par « Nous y étions ». C'est cool, hein? Donc, nous étions, le rockeur canadien donnait vendredi soir son premier concert au 51e Festival d'été de Québec devant un public à la ferveur phénoménale. Et c'est spécifié de notre envoyé spécial à Québec.
Écoutez, on est vraiment
c'est pas par Skype, là, il avait envoyé quelqu'un. Non.
Mais c'est qu'ils n'ont pas un correspondant régulier, par contre. Il fallait qu'il y ait un envoyé spécial.
Il y en a un. Originaire du Canada, ayant conservé sa nationalité malgré un demi-siècle de résidence en Californie, Neil Young se produisait pour la première fois dans la ville de Québec pour le Festival d'été de la ville, le FEQ. Une belle prise pour la 51e édition de ce festival, si sur les plaines d'Abraham, un site qui peut accueillir des dizaines de milliers de spectateurs. Tous avaient convergé pour entendre la rockstar de 72 ans, une des seules de sa génération à demeurer aussi imprévisible. Il y était accompagné du groupe Promise of the Real, qui joue régulièrement à ses côtés depuis 2015. Amené par Lucas Nelson, la formation la formation compte un autre des fils de Willie Nelson, Mika. Armés de leur répertoire propre,
Mika, le chanteur Mika?
Je crois pas, non.
Ah, OK.
Fils de Willie Nelson, je pense pas.
Je sais pas. Moi, je suis super pas bonne en généalogie artistique, donc j'ai entendu Mika, puis j'essaie de
Non, je pense qu'il
n'y
a pas juste un Mika.
OK.
Armés de leur répertoire propre, ceux-ci ont ouvert la soirée. Ce n'est pas la première fois que je suis amené à jouer 2 concerts différents dans la même soirée, nous expliquait Lucas Nelson quelques minutes avant d'entrer en scène. S'il ne tenait qu'à moi, j'aimerais y jouer toute la journée. Voici quelques mois, Neil Young nous confiait apprécier particulièrement la compagnie de ce jeune groupe. C'est la première formation avec qui je peux aller dans autant de directions à la fois. Ils savent jouer tant de mes chansons. La particularité des concerts de Neil Young avec Promise of the Real est d'ailleurs l'absence de programme défini. Nous n'avons aucune idée de ce que nous allons jouer à l'avance, explique Lucas Nelson. Devant la batterie, on pourra voir une énorme liste manuscrite de titres de chansons parmi lesquels les musiciens piochent à volonté. Ce soir-là, le morceau Like an Inca a ouvert les hostilités. Un choix pas évident, tiré de l'album Trans, un des plus mal aimés du chanteur, la chanson souffre d'un manque d'énergie et d'une durée trop longue pour percuter.
Ça, c'est et donc, ils ont commencé par ça. Peut-être qu'ils se sont dit, on va s'en débarrasser.
Ouais, mais ça, c'est un trait de Neil Young qui dérange souvent. Je pense qu'il en parle un peu plus loin dans l'article aussi. On se consolera avec le deuxième morceau, Fucking Up. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Qui donnera le ton de la soirée, électrique à souhait. Riche d'une discographie de près de 40 albums studio, Neil Young aime ménager les surprises, quitte à désarçonner le public. Ainsi, aucun extrait de Harvest, son plus grand succès commercial, ne sera proposé.
Ah ouais.
Ça
fait exprès pour...
Ouais, écoute, ça, je pense que ça peut décevoir souvent les auditeurs, parce qu'effectivement, Neil Young, c'est l'album où il y a Old Man, Heart of Gold, tout ça, ces chansons les plus connues.
Surtout quand on s'entend là, que c'est pas tous les jours, comme vous dites, c'est la première fois qu'il venait à Québec ou en tout cas au Festival d'été. C'est la seule fois qu'on a la chance de le voir dans la vie. On a envie d'entendre ses grands succès.
Ouais, je pense que... Je ne sais pas s'il aime décevoir ou...
Mais de toute évidence, l'auteur de l'article n'est pas si déçu parce qu'il commence quand même avec beaucoup d'enthousiasme.
Il est peut-être poli.
Après, il modère un peu, mais il est poli.
Donc, aucun extrait d'Harvest, son plus grand succès, ne sera proposé. À la place, Neil Young offrira un florilège des morceaux fleuves dont il s'est fait le spécialiste. En éternelle chemise à carreaux, jean noir et feutre de la même couleur, Neil Young a gardé le timbre aigu et fragile de ses débuts. Il sourit très souvent, visiblement heureux de jouer de la musique. « Nous sommes très contents d'être avec vous ce soir. C'est la première fois que je joue ici. C'est incroyable. » Et d'ajouter en français « Merci beaucoup, mes amis. » Son frère Bob, 76 ans, qui réside toujours au Canada, a profité de la proximité pour venir écouter son cadet. L'actrice Daryl Hannah, qui partage sa vie depuis 2014.
Ah oui, je savais pas ça.
Oui, vous savez c'est qui,
Daryl? Ben oui, Daryl Hannah, c'est la sirène.
La sirène dans Splash.
Splash,
ouais, ça fait quand même plusieurs années, ça.
Oui. Mais qu'on a vu dernièrement dans Kill Bill aussi, qui était formidable. Dans le rôle de... Oui, elle jouait une des méchantes.
Je me souviens
pas. Je suis pas mal sûre que c'est elle.
C'est possible. On fait une recherche là-dessus. Donc, heureux les Québécois qui auront goûté pour la première fois au plaisir d'un concert de Neil Young. Puissant et charismatique, le chanteur et guitariste ne déçoit jamais. Bon, ça, c'est à discuter, mais il trouve toujours une manière inédite de revisiter des perles de son répertoire. Sur I Am a Child, Young adresse une pique à la politique de Trump en dédiant la chanson à tous les enfants enfermés dans des cages un peu partout.
Wow.
Ça, faut lui donner ça, par exemple.
Oui, effectivement.
il est fort sur des coups de gueule comme ça. Lot of Love, tube de 1978, est livré avec une douceur bienvenue. On se serait bien passé des deux titres des frères Nelson, l'un pour Lucas, l'autre pour Mika, d'autant qu'ils avaient eu le loisir de présenter leur musique quelques heures avant, étant donné que c'est eux qui faisaient la première partie. Mais dès que l'électricité revient, le concert atteint des sommets stratosphériques, surtout dans l'enchaînement « Down by the River, like a hurricane », qui s'étire sur 30 minutes dans des improvisations de guitare noisy, hérissées sur sa fidèle Gibson noire, dont il arrache les cordes rituellement alors que la tension retombe. Le temps d'attraper une autre guitare, sa fameuse Gretsch blanche, Neil Young livre la pièce la plus récente de la soirée, Angry World, tirée de son dernier grand disque en date, le Noise 2010, au son dantesque. Les vibrations restent pour l'hymne et Hey My My, qui est probablement aussi une de ses plus connues, exécutée pied au plancher par un Young arborant un large sourire. Voilà près de 2 heures qu'il est sur scène lorsque retentit le morceau final, Roll Another Number, qui racontait dès 1973 sa prise de distance avec le festival de Woodstock. 45 ans plus tard, sans nostalgie, le musicien a mis plusieurs générations d'accord avec son rock trempé dans l'intransigeance et l'intégrité.
À Alors, de la ville de Québec, on s'en va un petit peu vers le nord.
C'est juste en haut,
à droite là, de Chibougamau, sur la carte, dans la Nation Cree de Mistissini. Donc, je disais tout à l'heure de ne pas confondre avec Dolbeau-Mistassini, dont on entend plus souvent parler, qui est à côté du lac Saint-Jean, mais c'est plus au nord. Alors, donc, des diamants chez les Cree de la baie James. C'est un article qui a été publié le 3 juillet sur le site Espace autochtone de Radio-Canada et qui est signé Jean-Michel Leprince. D'ailleurs, ça s'accompagnait d'un reportage vidéo qui était présenté au téléjournal, mais qui n'est pas présent dans l'article. Depuis plus d'un an, le Québec produit des diamants à la mine Renard sur le territoire des Cree de la baie James. Ce projet existe grâce à une entente exemplaire unique entre les Cree de Mistissini et la minière Stornoway. Les Cree de la baie James sont reconnus comme des champions de la négociation. L'entente hydroélectrique de la baie James et la paix des Braves ont permis aux Cree d'obtenir une certaine autonomie sur la gestion de leurs affaires, permettant à leur communauté de jouir d'une certaine prospérité, souligne le grand chef de la nation Cree de Mistissini, Richard Shekapio. Nous, les Cree, on n'est pas contre le développement. Nous l'avons montré dans le passé avec de bons exemples d'opportunités économiques. À long terme, c'est important d'avoir un équilibre entre le mode de vie Cree de chasseurs-trappeurs et le développement des ressources. Ces talents de négociateurs, la communauté de Mistissini les a mis à profit dans l'entente Renard. L'entente Meshechou avec la minière Stornoway a été signée le 27 mars 2012. Elle vise un partenariat dans l'exploitation de la mine de diamants. La mine produit depuis plus d'un an et demi. Quand elle sera rentable, les Cree recevront des redevances. Entre-temps, on leur garantit des occasions d'affaires, des emplois à moyen et long terme et des outils de développement professionnel, sociaux et culturels. Et surtout, la protection de leur environnement et de leur territoire de chasse traditionnel. La mine Renard est située sur le territoire de chasse de la famille Swallow, près des monts Otish, à 350 km de Chibougamau et à 200 km au nord de la communauté Cree de Mistissini. Sans l'accord des Cree de Mistissini, il n'y avait pas de mine. Ils ont déjà rejeté un projet de mine d'uranium. Pour le projet de mine de diamants, la communauté s'est mise d'accord pour négocier le projet de Stornoway. L'avantage avec les Cree, c'est qu'ils sont bien organisés, explique le vice-président des affaires publiques pour Stornoway, Ghislain Poirier. Entre autres, ils ont une fédération, le Grand Conseil des Cree, qui a élaboré une politique minérale. Donc, leur gouvernement a établi des normes pour l'acceptation et la réalisation de projets miniers. Et il y a de la place pour la consultation et la négociation le cas échéant. Priorité numéro un, on le disait plus tôt, l'environnement. Protection des eaux et des territoires de chasse. Personne n'a le droit de sortir du site de la mine autrement que par la route ou par l'aéroport local. Numéro 2, les emplois. Pour la construction et l'opération de la mine. Sur le milliard de dollars consacré à la construction, 200 millions ont été versés à des entreprises Cree. Pour les activités mêmes de la mine, le recrutement d'employés Cree est plus difficile. Ce sont pourtant des emplois bien payés, 80 000 $ par an en moyenne. Seulement 16 % des employés sont Cree. Il en faudrait beaucoup plus. Stornoway a ouvert un bureau à Mistissini pour le recrutement de personnel qualifié et pour les relations avec la communauté. La mine avait besoin rapidement de 29 conducteurs de camions. Les recruteurs doivent aussi persuader les candidats qu'il est payant et intéressant de travailler sous terre, où se déroulera la suite des activités minières. La mine Renard a permis à des Cree comme Emma Bearskin, de réaliser un rêve. Jeune, elle jouait avec des camions miniatures, maintenant elle conduit de vrais gros camions. Emma Bearskin est d'ailleurs la fille de Stephen Bearskin, négociateur de la Convention de la baie James. Les membres de la communauté de Mistissini occupent aussi des postes de haute responsabilité comme Rodney Petawabano, contremaître de la mine ouverte. C'est lui qui planifie les activités de sautage et de forage tous les matins. Les plans doivent être constamment révisés. De son côté, Jenny Saganache, responsable de la planification et de l'entretien du matériel à la mine Renard, croit qu'il est possible un jour que le grand patron de Stornoway soit un Cree. Je crois très possible d'aller plus loin. Moi, je m'y vois. Au rythme que je vais en ce moment, je me vois monter assez vite. Autre exemple de l'implication de la communauté Cree dans les activités de la mine, les employés de la mine Stornoway sont logés un peu comme à l'hôtel et c'est une entreprise Cree Kinkishguish, qui veut dire l'agopède, comme la montagne qui surplombe la mine, qui s'occupe de la conciergerie, de l'entretien des chambres et de la gestion de la cafétéria. L'ambiance est bonne parmi les employés venus de partout au Québec et même de l'étranger. On entend les trois langues, français, anglais et cri. Une fois les premières gênes passées, de la vie de tous, l'intégration est bonne. En bordure de la mine, les cris de Stornoway ont leur centre culturel, un tipi et une maison longue, où ils font régulièrement des rencontres et des festins. Les non-autochtones sont toujours les bienvenus. À Stornoway, on travaille 14 jours d'affilée, suivis de 14 jours de congé. Cela permet aux cris, en ajoutant une semaine de vacances à leur congé, d'aller à la chasse, aux outardes au printemps, à l'orignal, à l'automne.
Je sais qu'on a tant de choses à se dire, et tes histoires seront bientôt usées. Quand je serai blottie contre la fatigue, des jours à la mer qu'on veut oublier. Et voilà que tu ne peux plus chanter. Je crois bien que je suis seule à t'aimer. Tes lèvres brûlent tant de mille mensonges que tu ne prends plus la peine de raconter. Et tu m'as volé ce qu'il reste de l'été, des berceuses que tu chantais pour me calmer. Ne me laisse plus ici, ne me laisse plus cette fois, même si je ne suis rien pour toi. Même si je ne suis rien pour toi. Je me rappelle les secrets en cavale, laissés en murmure au creux de mes bras, que je porterai si lourd de tourments. Je t'entends encore crier doucement. Pourquoi voulais-tu encore donc de moi, alors que je quittais toutes ces pensées? Tu ne me voulais que pour ces quelques mois, pour t'aider toujours à mieux l'oublier. Et tu m'as volé ce qu'il reste de l'été, des berceuses que tu chantais pour me calmer. Ne me laisse plus ici, ne me laisse plus cette fois, même si je ne suis rien pour toi. Même si je ne suis rien pour toi. Même si je ne suis rien pour toi.
Tiré de son deuxième album, c'était Cœur de pirate et la chanson Cap Diamant.
Merci beaucoup. Alors, ben oui, on a parlé de diamants et c'était une belle occasion d'entendre la belle voix de Cœur de pirate. Je viens de l'ajouter à ma liste de lecture sur Google pendant que je l'écoutais. Alors, c'est à vous, Serge. Vous allez nous parler. Bon, on va finir sur une note un petit peu moins positive, mais en même temps informative. Mm-hmm. Il faut en parler. Mm-hmm. L'esclavage. Mm-hmm.
Oui, ben c'est quand même positif parce que l'esclavage, il y en a moins aujourd'hui qu'il y en avait dans les temps jadis.
Oui, mais c'est il y en a encore. Effectivement, malheureusement, on s'en va vers l'amélioration. Ouais. Il faut voir les côtés positifs. Mm-hmm.
Alors, c'est des sources diverses où j'ai puisé l'information. Donc, l'esclavage existe à l'époque antique. Il est mentionné dans les toutes premières traces écrites comme le code de Hammurabi et d'autres écrits analysés comme des transcriptions d'histoire orale. Les critères de propriété liés à l'esclavage impliquaient un certain niveau d'organisation des sociétés, ce qui rend incertaine l'existence de l'esclavage dans les temps préhistoriques.
Mais c'est difficile.
Ben
de...
oui. Ouais. Mais ça devait, on présume que ce serait pas surprenant que ça existait. Alors, les preuves sûres de l'existence de l'esclavage commencent donc avec les sociétés historiques possédant l'écriture. Pour Aristote, au point de départ, il y a la nature qui crée d'une part des êtres que leur intelligence destine à commander, d'autre part des êtres que leur seule force corporelle voue à l'obéissance. Encore à l'air, tous deux, commandant et commandé, ont même intérêt. Ainsi, l'esclavage est la réduction d'une personne. Ça, c'est la définition. L'esclavage est la réduction d'une personne à un état de privation de toute liberté, celle-ci allant de liberté sociale aux libertés les plus fondamentales. L'esclave est exclu de la société tout en étant, dans les sociétés esclavagistes, un élément moteur.
Beaucoup oui, de sociétés c'est ça, c'est sans, qu'on ne pourrait pas s'en passer, mais en même temps, lui, il n'y a pas...
Le terme français « esclavage » vient du latin médiéval « sclavus », S-C-L-A-V-U-S. Le mot « esclave » serait apparu au Haut Moyen-Âge, à Venise, où la plupart des esclaves étaient des Slaves des Balkans, alors appelés « esclavons », ça venait du grec, et dont certains furent vendus jusqu'en Espagne musulmane, où ils sont connus sous le nom de Sacaliba. Ces termes du Moyen-Âge se sont substitués au terme latin antique antérieur, « servus », qui a conduit au terme « servile » et « servilité », relatif à l'esclave et à sa condition. Ce mot a aussi donné naissance au terme « le serf du Moyen-Âge », qui était le paysan attaché à un seigneur.
Ah, donc
qui
le serf, ça viendrait de la même la racine que servilité. Eh ben.
Et au moderne, service et serviteur.
Et donc, vous avez parlé que c'était des slaves à l'origine, donc est-ce qu'on pourrait penser que le terme slave en anglais et le mot slave viendraient de la même racine? En tout cas, ça serait intéressant à poursuivre comme recherche.
Sans qu'aucune vraie révolution ne soit opérée, l'influence grandissante du christianisme amène une diminution progressive de l'esclavage et renforce un mouvement de liberté, en réalité, entamé sous les empereurs païens de la Rome antique. Bon. L'Église considère maître et esclave comme des égaux devant Dieu, au moins une bonne chose, et s'oppose en principe à ce que des chrétiens appartiennent à d'autres chrétiens. L'esclave peut se marier, sa famille est reconnue. Il a pu aussi, à certaines époques, se faire moine, trouver asile et donc être soutenu contre son maître. À la fin de la Rome antique correspond donc en Occident le passage progressif de l'esclavage à une forme adoucie, le servage, généralisé à partir du 8e siècle. Alors que l'esclavage recule en Europe du fait de l'extension du christianisme, sans toutefois disparaître, il prend son essor dans les colonies américaines. L'esclavage de type colonial apparaît au milieu du 15e siècle lorsque les Portugais, sous la direction d'Henri le Navigateur, capturent ou achètent des captifs africains pour les déporter vers leurs colonies de Madère et du Cap-Vert. La traite atlantique débuta en 1441 par la déportation de captifs africains vers la péninsule ibérique pendant plusieurs décennies. Après la découverte de l'Amérique, les maladies ramenées involontairement par les Espagnols et Portugais, ainsi que les maltraitances, le travail forcé, ont décimé les populations indigènes. D'après Claude Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, des couvertures de varioleux furent même parfois abandonnées sciemment sur des arbres afin que les indigènes s'envêtent et se contaminent.
Bon, ça, on l'a entendu souvent.
Ça, c'était fait aussi en Amérique du Nord. Pour remplacer donc cette main-d'œuvre disparue, les conquistadors ont fait venir des captifs africains issus de la traite arabe, parce qu'en Afrique, c'était les Arabes qui faisaient la traite. Cette décision marque le début de la traite transatlantique. Les nations européennes, en particulier le Portugal, la France, la Hollande et l'Angleterre, se lancent dans le commerce triangulaire entre des ports de l'Europe, le golfe de Guinée et les Amériques, le Brésil et les Antilles. Le premier navire négrier français, l'Espérance, part de La Rochelle en 1594. On monte quand même assez dès le début. Et se dirige vers le Gabon et poursuit au Brésil. La motivation première des négriers est économique et l'esclave noir est considéré comme une marchandise sous condition que ce ne soit pas sur le sol du royaume. Donc en Europe, ce n'était pas permis, mais dans les colonies, c'était
permis. C'est tellement hypocrite. Comme...
Le pays ayant reçu le plus d'esclaves noirs est de loin le Brésil, avec environ 5,5 millions d'Africains déportés du 16e siècle à 1850, soit 40 % du total. C'était beaucoup.
Quand même.
Ensuite, savez-vous le dernier pays qui aurait aboli l'esclavage? Le dernier pays qui a aboli l'esclavage.
Les États-Unis?
Non, plus récent que ça. En 1980, c'est la Mauritanie. 1980, la Mauritanie. En Afrique.
Ah oui?
Ouais.
Bon, on ne sait pas si c'est comme dans certains endroits, là, la peine de mort. Là, c'était pas encore aboli légalement, mais c'était plus pratiqué. Il y a certains endroits, mais peut-être qu'il y en avait encore.
Aux États-Unis maintenant, dans les États du sud des États-Unis, où l'esclavage a perduré jusqu'en 1865, les esclaves étaient à cette date au nombre de 4 millions pour une population blanche de 5 millions d'individus. Alors, seuls 48 000 de ces derniers étaient considérés comme planteurs, c'est-à-dire propriétaires de plus de 20 esclaves, et 3 000 d'entre eux en possédaient plus de 100. Les plus riches planteurs pouvaient parfois en posséder 500. Passons maintenant au 20e siècle. Soit par survivance du phénomène esclavagiste traditionnel, soit à travers de nouvelles formes dites « modernes », l'esclavage est resté une réalité du 20e siècle. De nombreux comportements systématiques, les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale, ou les goulags soviétiques ou chinois pour les opposants des régimes, ou même en Corée du Nord actuellement.
Encore aujourd'hui.
Le proxénétisme.
C'est l'esclavage, même s'il est aboli, il y a quand même une forme illégale d'esclavage.
C'est ça, exactement. C'est pas parce que quelque chose est illégal que c'est pas pratiqué.
Parce que vous, la personne qui se prostitue, garçon ou fille, ben il est dépendant de son proxénète et qui le fait travailler. Donc, il n'y a plus la liberté.
Non, effectivement.
Également domestique, les serviteurs qu'on fait venir d'autres pays. Et on les loge, on les nourrit, ils n'ont pas de salaire, puis il y en a qui sont bien traités.
Souvent, on garde leur passeport, on les informe pas de leurs droits, et puis on en entend régulièrement parler, c'est vrai.
De mouvement.
Tout ça est progressivement, ça a été analysé, puis c'est considéré comme de nouvelles formes de l'esclavage. L'esclavage n'a cependant pas totalement disparu dans certaines régions du monde, comme la péninsule arabique ou le sous-continent indien. L'Organisation internationale du travail estime à 25 millions le nombre de personnes vivant actuellement dans des conditions assimilables à de l'esclavage, d'où le terme « esclavage moderne ». Selon l'ONU, chaque année, 2 millions de personnes seraient réduites en esclavage.
C'est 2
millions,
vraiment...
c'est énorme, évidemment, il y a le travail des enfants, l'esclavage des enfants aussi, qu'on est... En 2100, l'UNICEF estimait que 200 000 enfants étaient retenus en esclavage en Afrique centrale.
Quand vous dites 2100, vous voulez dire 2010?
En 2000, pardon.
Prévisions à long terme.
En 2000, un rapport de l'UNICEF disait qu'il y avait 200 000 enfants retenus en esclavage, donc ça a dû augmenter
200
000, depuis ce
temps-là. Voilà.
Merci
beaucoup, Serge. Alors, c'était pas complètement positif, votre affaire, mais c'est vrai qu'il y a quand même d'amélioration globalement, on va dire.
Mais après avoir lu ça, je me demande...
Oh là là. Alors, c'est ce qui termine la première partie de notre émission. On vous revient après une courte pause.
Écoutez Les voies de service.
Where room?
Vous êtes toujours à l'écoute des Voix de service sur Canal M, et à l'instant, on vient d'entendre Sir Paul McCartney, un des plus récents extraits qu'il a sorti. Ça s'intitule « I don't know ».
Ah, Paul McCartney.
Est-ce que vous saviez « I don't know » Vous ne saviez pas.
Je ne savais pas.
Et c'est non, justement un article que j'ai vu dans le Rolling Stone. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Sébastien de faire jouer ça. Paul McCartney, nouvel album. Et des premiers extraits qui sont à l'écoute présentement sur le net, dont celui-là. Et un autre qui a pour titre...
C'est joli, hein? Ça s'écoute bien quand même.
Ouais, ben c'est du McCartney.
C'est du
on
Paul
le
McCartney,
reconnaît
là.
Facilement. Oh, ouais. Et souvent, à la première écoute, on dit « Ouais, c'est correct. » Puis après, on se rend compte qu'elle nous est restée dans la tête. De Donc, c'est un petit peu ça, le génie de McCartney. Donc, le légendaire Beatle revient à la rentrée avec Egypt Station. Il dévoile deux premiers extraits à découvrir dès maintenant. 5 ans après New, l'immense Paul McCartney dévoile les détails de son prochain album solo, qui s'appellera donc Egypt Station, et sortira le 7 septembre prochain. Produit par Greg Kurstin, à l'œuvre auprès de Beck, Liam Gallagher et les Foo Fighters, ou encore Adele, et enregistré entre Los Angeles, Londres et Sussex, le disque devrait prendre la forme d'un véritable voyage kaléidoscopique particulièrement varié, avec l'inévitable valeur mélodique ajoutée, si chère au bassiste des Beatles. J'aime ces mots, Egypt Station déclare. Ça se dit mal quand même. Egypt, Egypt Station déclare McCartney au sujet du titre et de la direction de ce nouvel album. Chaque titre est comme une station. Ça nous a aidé à structurer nos idées pour ces chansons. C'est comme si la musique émanait d'un endroit que j'avais rêvé. Parmi les 14 titres présents sur la galette, on retrouvera les deux premiers extraits dévoilés par l'artiste, I Don't Know, qu'on vient d'entendre. Je pense que c'est plutôt Don't Know, mais en tout cas. Ballade de plaintive au piano, au style reconnaissable entre mille, et Come On To Me, pop song cocky et vigoureuse, tout à fait Beatlesque, deux témoins de la variété présumée de l'album. Egypt Station, donc, le nouvel album de Paul McCartney, débarque le 7 septembre prochain. Et je t'ai parlé tantôt, vu que ça c'était très court, j'ai un article dont le titre m'avait un peu frappé, fait que par curiosité, je l'ai lu.
Oui.
Dans le Figaro.
Sur la paralysie cérébrale musicale.
La paralysie musicale toucherait les Français à 27 ans et 3 mois.
27?
Mais qu'est-ce donc?
Ben oui, c'est quoi ça, 27 ans et 3 mois?
Je pense qu'il n'y a pas rien d'alarmant là-dedans. Selon une étude sur les habitudes d'écoute commandées par le géant du streaming Deezer, nos compatriotes, les Français, cesseraient de s'intéresser à la découverte de nouvelles musiques bien avant d'avoir atteint leur 30e année.
Uh-huh.
Donc, on parle juste de découverte de nouvelles musiques.
Ouais, okay.
À quel âge cesse-t-on de s'intéresser à de nouveaux artistes et d'autres genres musicaux? Le service de streaming musical Deezer a interrogé un échantillon de 5000 personnes en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et au Brésil sur leurs habitudes d'écoute pour le découvrir. Le résultat est attristant. Dans l'Hexagone, on semble être atteint par le syndrome de paralysie musicale à 27 ans et 3 mois, soit largement avant nos voisins d'Outre-Rhin, Allemagne j'imagine, 31 ans, et d'Outre-Manche, 30 ans et 6 mois. Pas beaucoup quand même.
Non, quand même.
C'est l'âge auquel périrent Jimi Hendrix, Kurt Cobain ou encore Amy Winehouse que l'appétit musical français cesserait. La suite ne serait qu'un déclin nostalgique au cours duquel nos compatriotes se contenteraient d'écouter des titres musicaux qu'ils connaissaient déjà, se cantonnant à un style de musique en particulier. Rock, musique électronique, rap, etc. Au total, 65% des personnes interrogées estiment se sentir bloquées dans un genre. Pire, 41% déclarent ne pas être assez curieux pour écouter des chansons en dehors de leur style préféré. Et ça, je pense pas que c'est nouveau, là.
Non, puis, non, puis c'est social, hein?
Ouais.
On sait qu'on écoute la musique avec nos amis, on écoute toujours la même radio, donc
exactement.
Ils vont jouer le même genre musical.
Puis je me suis rendu compte avec le temps que souvent, la meilleure musique pour nous, c'est la musique qu'on écoutait quand on était jeune et qu'on avait le temps d'écouter de la musique. À partir du moment où tu as un travail à temps plein, une maison, des enfants, tout ça, regarde... T'es moins attentif peut-être, puis t'as moins le temps d'écouter. Donc, quand t'entends des chansons que t'écoutais à plein temps, on a tous déjà fait ça, écouter le même disque en boucle. Ça, c'est la meilleure musique pour nous autres. Parce que ça nous ramène dans
c'est
un
ça, y a
dans
quelque
un
chose
environnement
de,
rassurant.
C'est une nostalgie, c'est la musique sur laquelle on dansait quand on sortait.
Donc, le paradis musical, j'y crois plus ou moins, là, mais bon. Donc, parmi les raisons évoquées, le fait d'avoir un emploi trop prenant, le panel de choix trop élargi ou l'indisponibilité causée par la charge d'un enfant. Toutefois, les personnes interrogées ne semblent pas se satisfaire de ce statu quo. Une personne interrogée sur deux, ou 54%, souhaiterait consacrer plus de temps à découvrir des nouveautés. 4 sur 10 affirment qu'à l'avenir, ils passeront de longues heures à s'intéresser à des artistes inconnus. Des heures peut se frotter les mains. L'heure de pointe, l'heure, pardon, pas l'heure.
L'âge de pointe?
Non. On voit des mots, hein? L'étude pointe aussi du doigt l'âge de découverte musicale à laquelle les Français joueraient les explorateurs d'horizons sonores. Étrangement, en France, c'est à peine un an avant le déclin, 26 ans et 4 mois.
On commence à 26 ans, ça dure un an, puis on arrête.
Que l'on est le plus avide de partir à l'aventure vers de nouveaux territoires musicaux. Donc, c'est un genre de dernier souffle. À cet âge, 2/3 des répondants affirment avoir écouté au moins 10 nouvelles chansons par semaine et plus de la moitié, 55%, déclarent avoir cherché au moins 5 nouveaux artistes par mois.
Alors, je vous l'avais promis, je vous emmène au Yukon, mais je ne vais pas vous parler du Yukon, en fait, c'était de la fausse représentation que je vous faisais. La raison, c'est que les 5 et 6 juillet dernier se tenait la 23e conférence ministérielle sur la francophonie canadienne. Et il y avait à cette occasion-là une consultation de la communauté francophone quant à l'avenir de la loi sur les langues officielles. Et donc, il s'est déroulé également des rencontres pour l'élaboration d'une loi fédérale pour la protection des langues autochtones. Donc, on parle de francophonie, mais par la bande, ça touchait les langues autochtones. Alors, le titre de l'article, c'est « Le français, un modèle ou une menace pour la revitalisation des langues autochtones ». C'était publié le 5 juillet et c'est signé Claudiane Sanson. Donc, j'ai pris ça sur le site de Espace Autochtone, encore une fois. Alors, au Yukon, il y a eu plusieurs initiatives ces dernières années pour encourager l'apprentissage des langues autochtones, comme un programme d'immersion pour adultes de la Première Nation Champagne-Aïchihik ou une application pour mobile pour le Tutkon du Sud. Tutkon, c'est T-U-T-C-H-O-N-E. À Dawson, on enseigne la langue Han selon les principes du français intensif. Au même moment, en Colombie-Britannique, l'école primaire Skadgaanaay sur l'archipel Haida Gwaii a aboli l'an dernier son programme d'immersion française jugé menaçant pour la langue Haida. Selon le grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, le CYFN, Peter Johnston, il ne fait aucun doute que l'état du français au pays est un modèle. Le respect, dit-il, qu'on accorde au français dans la traduction, par exemple, de documents est remarquable. Le français est un exemple probant du déséquilibre au territoire en ce qui a trait aux ressources investies par le territorial et le fédéral. Mais nous, les Premières Nations, avons la possibilité de changer cette perspective. Le président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, le FCFA, Jean Johnson, cette fois-ci, ne croit pas de son côté que la protection des langues autochtones est un effet sur le français au pays. Le message qu'on a livré aux représentants autochtones, c'est qu'on ne veut pas vous dire quoi faire ou comment faire. Ce qu'on veut, c'est être près de vous, vous encourager, vous soutenir. Mais la question des langues officielles et des langues autochtones, c'est deux questions complètement séparées. Il croit, M. Johnson, qu'il est urgent pour tous les Canadiens de soutenir la pérennité des langues autochtones qui suscite une très grande tristesse pour notre pays du fait d'avoir été marginalisé. Les intervenants s'entendent tous pour dire que la revitalisation des langues autochtones ne peut pas être accomplie par la mise en œuvre de programmes comme ceux pour l'apprentissage du français. Les francophones ont développé de bonnes compétences, mais on ne peut pas parachuter notre façon de faire, souligne M. Johnson. Le linguiste André Boursier affirme qu'un cadre législatif est essentiel pour la protection des langues autochtones, mais que, contrairement au français, qui profite d'un grand nombre de locuteurs au pays, il n'est pas question pour l'instant d'offrir des services gouvernementaux dans ces langues. Il faut d'abord, selon lui, augmenter le nombre de locuteurs. André Boursier se dit enthousiasmé par le projet d'immersion pour adultes de la Première Nation Champagne-Aïchihik, mais rappelle que ce genre de programme a besoin de ressources à long terme pour offrir des services à un nombre grandissant de locuteurs. On a la même responsabilité envers les langues autochtones qu'on a envers le français et l'anglais au Canada. La source du droit à l'apprentissage de ces langues-là est le même pour les langues autochtones que pour le français ou l'anglais. La question, c'est de faire une loi qui va être efficace dans la situation actuelle de ces langues-là. Le linguiste rappelle par ailleurs que le désir d'apprendre une langue autochtone vient d'une unité, une utilité, pardon, donc je répète, je reprends. Alors, le désir d'apprendre une langue autochtone vient d'une utilité viscérale et définitoire, mais n'a pas une valeur marchande. On ne peut pas trouver un emploi ou faire des études supérieures. C'est un choix personnel d'investir temps et argent pour apprendre la langue. Ancien président de la Commission scolaire francophone du Yukon, ainsi que de l'Association franco-yukonaise, le linguiste se méfie d'une discussion qui pourrait concerner différents groupes linguistiques. Les gouvernements doivent faire attention de ne pas mettre les groupes minoritaires en compétition les uns avec les autres pour de maigres ressources. J'espère que la discussion présente vient avec des ressources additionnelles. Déshabiller Paul pour habiller Pierre, ce n'est jamais une bonne idée. Moi, il me semble qu'il y avait Jacques dans cette analogie-là, dans celle que j'avais entendue, mais en tout cas, Pierre, Paul, c'est pas...
Dans le but de préserver la réputation des innocents.
C'est tous des Français, en tout cas. Le grand chef, donc Peter Johnston, affirme qu'avec la nouvelle responsabilité du Centre des langues autochtones du Yukon, le Conseil pourra mettre en œuvre un mandat qui permettra d'appuyer la revitalisation des langues dans les communautés. Selon le grand chef, les programmes conçus pour l'apprentissage du français ne sont pas adaptés aux langues autochtones utilisées pour la pratique des activités traditionnelles. C'est donc à travers ces activités que ces langues devraient, entre autres, y être enseignées. Et par exemple, quoi de plus simple que d'aller à la pêche traditionnelle et de se parler dans la langue pour apprendre les mots en même temps qu'on découvre les ben activités oui. ou les objets qui nous entourent. Alors, il souhaite également voir des programmes dans toutes les 8 langues du territoire enseignés dans les écoles de la capitale pour les jeunes de ces communautés qui doivent y étudier. Est-ce que c'était mission impossible de faire sortir ces jeunes Thaïlandais a réussi finalement.
Ben oui, on a réussi. Oui,
alors
oui,
c'était pas impossible. Oui.
Merci Jean-Sébastien pour la musique, hein, tout très très approprié. Mais vous souvenez-vous de cette série-là?
Ah ben écoutez, absolument. Mais c'est impossible. C'est pas, on n'a pas besoin de se souvenir. Ils en font un nouveau à toutes les 2 ans. Là, ils font des films maintenant.
D'ailleurs, premier film Mission Impossible m'avait beaucoup déçu. Parce qu'on se rendait compte à la fin, j'espère que tout le monde l'a déjà vu, là, que le traître, c'était M. Phelps. Ça m'avait tué dans les émissions de la série,
ben
M. Phelps,
c'était
un bon gars.
C'est comme si Charlie dans Charlie's Angels avait été le méchant dans le film. Il était-tu méchant
dans
le film?
Ah, ça va pas bien. Bon, ok Serge, désolé.
Alors, je vais vous parler de 6 missions impossibles qui ont eu lieu. Oui. Et d'ailleurs, il y en a probablement beaucoup. C'est assez récent, donc ça va, vous en avez entendu parler. Mais vous me direz, il y en a dont on a fait un film après ça.
Je pense que je sais.
D'accord. Alors, la première, les 33 mineurs chiliens en 2010.
Oui, ça
j'en ai entendu parler. Ouais. Je pense pas qu'il y a eu un film.
Non, mais j'ai vu un documentaire, mais le film, non. Mm-hmm. Alors, ce fut une saga souterraine sans précédent. Au Chili, le 5 août 2010, 33 mineurs de la société chilienne San Esteban se sont retrouvés pris au piège par un éboulement à plus de, tenez-vous bien, 622 mètres de profondeur.
Aïe, aïe, aïe.
C'est très creux. Dans une vieille mine de cuivre du désert d'Atacama, le plus aride de la planète. Il aura fallu, il aura fallu 2 semaines aux secouristes pour les détecter. Leur sauvetage épique à l'aide d'une capsule après 69 jours sous une terre a captivé la planète.
Parce que ça a pris 2 semaines pour les trouver, mais ça a pris encore plusieurs jours. Donc, 69 jours en tout qu'ils ont passé là.
Oui, parce qu'ils pouvaient les remonter un par un, c'est dans une petite capsule. Je pense qu'il y a une seule peut-être deux personnes là, collées une sur l'autre.
Oh mon Dieu.
Il pouvait pas fallu qu'ils forent le trou là, pour arriver là.
Mais 69 jours, est-ce que je me souviens pas, est-ce qu'ils avaient de la nourriture ou quelque chose?
Oui, ils avaient. Je pense qu'ils ont réussi à leur faire. Non, ils avaient de la nourriture. Il y a toujours des chambres de réserve, je pense, dans les mines. Mais là, je ne m'avancerai pas trop. Ouais. Mais,
okay. En tout cas, parce qu'ils ont survécu un bon bout de temps. Ils vont avoir de l'eau, en tout cas, ça, c'est certain.
Oui, oui. La deuxième, la survivante du Rana Plaza en 2013.
Ça, c'est trop.
Ouais, ça, c'est trop récent pour qu'il y ait eu un film. Là. Le 24 avril, bon, quand je vais vous en parler, ça va vous... quand je vais le décrire, là, vous allez voir, ça va vous revenir. Le 24 avril 2013, le Rana Plaza, un édifice de 9 étages abritant 5 ateliers de confection, s'effondre en banlieue de Dhaka au Bangladesh.
Au Bangladesh, oui.
La tragédie fait plus de 1000 morts.
Imaginez.
Yo.
C'était un vice de construction, je pense.
Ouais. Ouais. Le 10 mai 2013, Reshma Akhtar, 19 ans, est retrouvée vivante après 17 jours dans les décombres du bâtiment.
Wow.
Les images du sauvetage de la survivante, hagarde et pleine de poussière, avaient fait la une des journaux du monde entier et en avaient fait une héroïne nationale. La tragédie du Rana Plaza a montré au grand jour les conditions de travail déplorables des 4 millions d'ouvriers de ce secteur dans le pays.
C'est ça. Puis si je me souviens bien, la mine au Chili aussi, je me demande si ça n'a pas fait, ça n'a pas relancé là, les questions des conditions de travail des mineurs, puis des règles de sécurité qui n'étaient pas très bien respectées.
Ben, sûrement, c'est ça que le drame, c'est qu'on attend toujours qu'arrive une tragédie.
C'est ça qui arrive, parce que là,
pour,
ça fait du bruit à l'international, puis c'est là qu'on décide de faire quelque chose.
Bébé Jessica, 1987. Ça, il me semble qu'il y a un film.
Je me souviens. 87, je ne sais pas s'il y a un film, mais je me souviens, dans un puits.
Oui, il me semble qu'il y a un film.
Ça, ça me dirait.
Ouais. À Midland, au Texas, en octobre 1987, Jessica McClure, 18 mois, tombe dans un puits d'eau de 20 cm de diamètre et de 6,7 mètres de profondeur dans la cour arrière de la maison de sa grand-mère.
Shit.
La pauvre grand-mère, ça devait s'arracher les...
Oh, mon Dieu.
L'opération du sauvetage prend beaucoup plus de temps que prévu en raison du sol rocheux. Il faut 58 heures aux secouristes pour creuser un trou adjacent à celui où elle était tombée pour se rendre jusqu'à elle et la sortir indemne du puits.
Parce que le trou était trop petit pour que quelqu'un descende, c'est ça? Puis comme c'est un bébé, on ne pouvait pas dire « Attache-toi! »
Ben non, ben non,
on ne pouvait pas creuser sur place, là, parce que ça aurait tombé.
Ça aurait fait, ça aurait fait effondrer sur elle.
Ils ont fait un film là-dessus, ça m'avait beaucoup marqué quand
j'ai vu
ça.
Elle n'a pour seule séquelle directe qu'un orteil amputé et une cicatrice au front. L'événement couvert en direct par CNN a captivé tous les États-Unis, évidemment.
Puis bon, séquelles physiques, mais j'imagine qu'il y a eu des séquelles psychologiques.
Oui,
quand même,
oui.
Là,
ben oui, j'imagine. Ben oui. Ensuite, ben là, celui-là, c'est facile. Apollo 13, 1970.
Oui.
Ah oui, ben ça, ils ont fait un film.
Oui, oui, oui.
J'ai vu le film.
Oui. D'ailleurs, une phrase célèbre.
Ça, ça me donne des frissons, même juste d'y penser, parce qu'il y a le moment là, où ils se rendent compte que...
Avec la célèbre phrase, Houston.
Houston, we have a problem. On a un problème,
oui.
Oui. Alors, la mission Apollo 13 est lancée le 11 avril 1970 et l'équipage doit se rendre sur la Lune. En cours de route, un réservoir d'oxygène explose et rend inopérant le module de service qui fournit l'énergie, l'eau, l'oxygène et le système de propulsion à l'équipage pour la principale partie de la mission. Donc, à peu près tout ce qui était nécessaire était à foutu le camp. Là, les astronautes Fred W. Hayes, James A. Lowell et John L. Swigert se réfugie dans le module lunaire, d'où il communique avec les équipes de Houston qui mettent au point des procédures extraordinaires pour amener le vaisseau sur Terre et l'équipage sain et sauf. Après avoir contourné la Lune et utilisé son attraction gravitationnelle pour revenir vers la Terre, les astronautes sont finalement extirpés du module lunaire le 17 avril 1970. Il leur restait des réserves d'oxygène pour 124 heures, mais de l'eau pour seulement 5h30 et de l'électricité pour 4h30.
Et là là.
Ouais. Ensuite, un autre. Les survivants des Andes,
ça,
1972.
Je me souviens parce que je l'avais lu à l'époque quand c'est arrivé, quand ils ont retrouvé. Ça, ça m'avait vraiment marqué.
Ouais. Et il y a un film qui a été fait sur
ça.
Oui, oui. Très bon film. Le 13 octobre 1972, un avion transportant les membres d'une équipe de rugby uruguayenne.
Moi, c'est le livre que j'ai lu, excusez-moi.
Ah oui, c'est correct, oui.
Oui, je pense que j'ai lu le livre, c'est ça.
D'une équipe de rugby uruguayenne, ainsi que leur famille et amis, s'écrasent contre un sommet de la cordillère des Andes en Argentine. 12 des 45 passagers meurent dans l'écrasement. 6 autres meurent dans les jours qui suivent. Les survivants se réfugient dans une partie de la Carlingue qui est enseveli par une avalanche 16 jours plus tard, tuant 8 autres personnes. Les jours passent et les recherches menées par 3 pays différents ne donnent aucun résultat. Une des raisons pour lesquelles on ne les a pas retrouvés, c'est que l'avion était de couleur blanche, alors dans la neige.
Oui, c'est pas évident, dans la neige.
Les survivants se résignent à manger les corps des défunts pour survivre.
C'est ça qui frappait l'imaginaire, moi, quand j'ai lu le livre.
Oui, parce que je me souviens qu'à l'époque, l'Église catholique avait condamné ce geste-là.
Ben oui,
je pense que c'est ça qui m'avait frappé et qui m'avait convaincu à lire le livre. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé?
Ensuite, mais par contre, ensuite, le pape Paul VI les a absous.
Ben, parce qu'il était déjà mort, les gens, puis à un moment donné.
Puis, c'est parce qu'il faut survivre.
Mais ça doit être un traumatisme terrible, quand même, de vivre avec ça.
Oui, oui. En décembre, 2 des 16 passagers toujours vivants entreprennent un trek. Ils vont dans et trouvent de l'aide 12 jours plus tard au Chili. Les 14 autres survivants sont rescapés après 72 jours au sommet d'une montagne glaciale.
72 jours.
Et ce qui est,
il doit y avoir eu une coupe d'orteil perdue dans cette
histoire-là. Oui. Mais les deux passagers qui sont allés entre eux, quand ils sont arrivés près d'une maison, ils étaient séparés par une rivière. Et ils ont fait il y avait un monsieur qui était là. Et à qui ils ont fait des grands
signes. Monsieur leur faisait des signes
et
aussi.
Et lui pensait que c'était des touristes. Alors, il est parti avec son troupeau. Il est parti avec son troupeau, mais le lendemain, il revenait avec son troupeau. Il les a encore vus là. Et c'est là que ça a connecté.
Ça a cliqué. Oh là là.
Et suite à ça aussi, c'est que comme ils avaient mangé de la chair humaine, ben c'est pas permis dans les lois. Hein.
Mm-hmm.
Alors, il y a eu un débat. Est-ce qu'on les poursuit? Est-ce qu'on les emprisonne, tout ça? Et finalement, j'ai fait des recherches ce matin, puis je n'ai pas trouvé, je pense que le gouvernement avait dit, écoutez, là, il y avait tellement de pression populaire, ils ont dit, écoutez, ce qu'ils ont vécu est affreux.
C'était vraiment une question de survie.
Foutez-leur la paix, tu sais, c'est ça. Le miracle du fleuve Hudson en 2009.
Oui, il y a eu un film, ça aussi.
Oui, le 15 janvier 2009.
Ça, c'est groupe... quand l'avion, c'est... Non.
Oui. Le 15 janvier 2009, un groupe de Bernache du Canada fonce dans les réacteurs d'un Airbus A320 qui vient tout juste décoller de l'aéroport international de LaGuardia à New York. Les pilotes de l'avion, en perte de puissance, évitent un écrasement en pleine ville et réussissent à amerrir d'urgence sur le fleuve Hudson face à Manhattan.
Ça, dans le sens où c'est un petit miracle, parce que ça aurait été une catastrophe s'il avait fallu que
Donald
c'est
Trump,
sur la ville.
Donald Trump va sûrement nous le reprocher un jour,
les Bernaches du Canada.
Miraculeusement, les 150 passagers et les 5 membres d'équipage survivent. Ils se regroupent sur les ailes. C'était assez spectaculaire de voir ça, les images qu'on a vues de ça. Sur les ailes et dans les toboggans d'évacuation transformés en canots de sauvetage. Puis ils sont secourus et évacués par différents navires qui sont portés à leur secours.
Et curieusement, il y a eu un film là-dessus et c'est encore Tom Hanks qui joue.
Oui,
comme dans Apollo 13.
Comme dans Apollo 13.
C'est
bon
le gars des catastrophes.
Les films de catastrophes. Tom Hanks, il s'était aussi ramassé tout seul sur une île, parler avec un ballon de volley-ball.
Alors, c'est dans la presse de lundi, presse de lundi. Oui.
Bien, merci beaucoup, Serge. Et c'est comme ça que se termine l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Serge Bradet, Daniel Lachance. Merci à Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde et aux choix musicaux. Et moi-même, Isabelle Falardeau, je vous souhaite une belle journée.